Cours de critique par le père Philippe à Saint-Jodard le 18 juin 1992.
Je suis dans la nécessité. pas directement l'existence de Dieu. Je dis bien, elle ne l'atteint pas directement. Je n'ai donc pas de concept de Dieu. Des quantités de thomistes affirment qu'on a un concept de Dieu. Et même quelquefois, vois-tu, des textes de... des textes officiels de l'Église parlent quelquefois de concept de Dieu. Et c'est pas tout à fait juste. En réalité, on a un jugement sur l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu. Là, on a un jugement, donc, d'une façon médiate, mon intelligence touche et atteint l'existence de Dieu. D'une façon médiate, pas directement. Et c'est le propre du jugement. Le jugement va plus loin que l'appréhension. Je n'ai pas d'appréhension de Dieu. Je n'ai pas de concept de Dieu. Je ne sais pas ce qu'est Dieu. Et cependant, je suis obligé d'affirmer. Donc, l'existence de Dieu par rapport à mon intelligence, c'est que l'exister de Dieu est affirmé sans que je sache exactement ce qu'est Dieu. Mais j'affirme qu'il existe un être dont je ne connais pas ce qu'il est au sens propre, mais je sais qu'il est nécessaire qu'il existe un être qui m'échappe, qui soit un absolu pour moi. Et c'est une situation très particulière. Quand Sartre dit l'exister est antérieur à l'essence, eh bien, quand il s'agit justement de ce jugement d'existence, je peux dire que mon jugement d'existence vis-à-vis de Dieu est nécessaire quant à l'exister, mais je ne sais pas ce qu'est Dieu. Je ne sais qu'une seule chose, c'est qu'il est au-delà de tout ce que j'expérimente. Je ne sais qu'une seule chose, c'est qu'il est infini. Pas de limite. C'est déjà suffisant. Je sais qu'il est simple, je sais, et ainsi de suite, toute la contemplation sur Dieu. Il y a une véritable contemplation de Dieu. Une véritable. C'est pas du tout métaphorique. Il y a une véritable contemplation de Dieu, parce que la contemplation va plus loin que l'appréhension. La contemplation est dans un jugement d'existence. Et parce que la contemplation est dans un jugement d'existence, je peux contempler Dieu. Si ma contemplation se ramenait à la contemplation des idées, je ne pourrais pas contempler Dieu. Pour la plupart des hommes d'aujourd'hui qui sont dans un climat néoplatonicien, la contemplation consiste à contempler une idée. On ne contemple pas une idée. On contemple une réalité présente et on la contemple dans la mesure même où elle me dépasse. Je ne contemple pas un petit crapaud en tant qu'il existe, oui, mais pas comme crapaud. Parce que je ne peux pas contempler une réalité inférieure à moi. Je me dégrade. Parce que qui dit contemplation dit connaturalité affective avec, grâce au jugement d'existence, avec la réalité que je contemple et moi-même. Alors je ne peux pas avoir une connaturalité affective avec le crapaud, sauf si je désire devenir crapaud. Un statut très particulier. Alors, précisons encore, développement de la théologie naturelle. Je sais, en critique, que l'existence de l'être premier, c'est l'existence du Créateur, de celui qui pour moi est source d'être. Et donc, l'existence de l'être premier est Dieu. Et plus proche, existentiellement parlant, de moi-même, que je ne suis proche de moi. Donc, l'intelligence, quand elle affirme l'existence de Dieu, elle ne touche pas intellectuellement, selon le mode appréhensif, l'existence de Dieu, selon le mode code naturel à mon intelligence, mais grâce à l'amour qui accompagne ce jugement, l'intelligence adhère à cette réalité. Non pas comme une conclusion, mais comme à une réalité source de mon être. Et donc plus proche de moi-même que je ne suis proche de moi-même. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Je dois l'expliciter en critique. Vous voyez ? Autrement dit, cette contemplation ou ce jugement, il est nécessaire qu'il existe un être premier que nous appelons, que les traditions religieuses appellent Dieu. Ce jugement a une force d'adhésion, ou une intensité, si vous aimez mieux, d'adhésion, plus grande que n'importe quel autre jugement. Mais il a une pauvreté radicale quant à l'aspect quantitatif. En affirmant l'existence de Dieu, j'affirme que je suis possédé par lui et porté par lui et qu'il est source de mon être. Donc, il est plus présent à moi-même que je suis présent à moi-même. Il y a donc une adhésion tout à fait particulière d'une intelligence qui se repose dans sa source et qui, grâce à cette adhésion, peut s'élever beaucoup plus loin. Il y a une extase dans l'adhésion. Il n'y a pas d'extase au niveau de la connaissance proprement dite, au niveau quantitatif de l'appréhension. Mais il y a une sorte d'extase imparfaite au niveau de l'adhésion. En adhérant à l'existence de cet être premier, je me laisse prendre par lui. Je ne peux pas adhérer à l'existence de Dieu sans accepter implicitement d'être porté par lui. Et donc, qu'il est lui-même source de ma propre adhésion. Il est donc plus présent à mon adhésion que je ne suis présent à lui. Ça, c'est unique. Et c'est ça qui justifie la contemplation. Donc, vous voyez, vis-à-vis de ce jugement, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Et je dirais, si j'allais très loin, je dirais que c'est là seulement que je peux comprendre la capacité de l'intelligence. Si je mesure la capacité de l'intelligence à son appréhension, je reste dépendant de mon conditionnement intellectuel. Et mon conditionnement intellectuel détermine la capacité de mon intelligence, ce qui est faux. Le conditionnement ne détermine jamais, sauf quand on est très fatigué et qu'on tombe dans la psychologie. Alors, le conditionnement détermine. C'est toujours ce qu'il faut quand on écoute un psychologue, de voir si, de fait, il dépasse le conditionnement, ou s'il reste lié au conditionnement. S'il reste lié au conditionnement, on lui crie « Car, vous manquez de philosophie. » La philosophie dépasse le conditionnement pour atteindre ce qui détermine et la finalité. Or, seulement dans ce jugement, il est nécessaire qu'il existe un être premier que nous appelons Dieu. Ce jugement permet la contemplation de cet être premier. Et cette contemplation de l'être premier me fait découvrir ce qu'il y a de tout à fait particulier dans l'intelligence humaine, qui est une intelligence. Quelle est Capax Dei? Alors je dirais en philosophie qu'elle est capable de contempler l'être premier. Parce que l'intelligence est capable de dépasser son conditionnement comme intelligence. Si l'intelligence n'était pas capable de dépasser son conditionnement, elle ne serait plus intelligence, elle serait raison. C'est l'erreur du rationalisme qui ramène l'intelligence à son conditionnement humain. Or, l'intelligence est capable de dépasser son conditionnement humain pour atteindre ce qui est en tant qu'il est, pour atteindre les principes propres de ce qui est, et pour pouvoir affirmer l'existence d'un être premier. Ce n'est que là où je saisis vraiment ce qu'est l'intelligence humaine. C'est-à-dire, dans l'intelligence humaine, je saisis ce qu'est l'intelligence. Et je saisis que l'intelligence n'est parfaitement d'intelligence que grâce au jugement, et que dans le jugement, dans l'appréhension, elle saisit son mode particulier. Et dans le jugement, elle est parfaite. Et le jugement ultime, c'est ce jugement. Et ce jugement permet le jugement de la contemplation, qui est le jugement ultime, parfait. Vous voyez, tout ce que nous devons dire au plan critique, et ça, je crois que c'est capital, dans le monde d'aujourd'hui. C'est là où vous pouvez vous purifier radicalement de tout positivisme. Il n'y a que là où vous êtes radicalement purifié de tout positivisme. Et de tout phénoménologisme d'aujourd'hui. On reste dans le vécu. Le psychologue reste dans le vécu. Positivisme reste dans le vécu de l'intelligence. Si je reste dans le vécu de l'intelligence, je ne peux jamais affirmer l'existence de Dieu. Parce que Dieu n'existe pas comme Dieu dans mon vécu. Il est source de mon vécu, mais il n'existe pas comme Dieu dans mon vécu. Mon vécu, c'est mon vécu d'homme. Or, le conditionnement, c'est toujours vécu. Mais ça, c'est très très important dans le monde d'aujourd'hui. Il faut aller jusque-là. C'est pour ça qu'au fond, seule la métaphysique nous permet de comprendre ce que c'est que l'intelligence humaine. Et là, on voit combien Aristote avait raison de dire qu'on nécessaire qu'il existe un être premier que nous appelons Dieu. Et que nous avons essayé de contempler cet être premier en disant il est absolument simple. Vous voyez, la négation. Et au-delà de la négation, absolument simple, il est très parfait, perfectissimo. Il est la bonté même, souverainement bon. Je peux contempler cet être premier et mon intelligence en le contemplant est tout entière suspendue à lui. Et totalement dépendante de lui, tout en étant souverainement libre. Et dans une attitude de liberté, cet acte, c'est l'acte le plus vital qui soit, donc le plus personnel. Le plus subjectif, tout en étant totalement relatif à celui qu'on connaît, à celui qui est présent, à celui auquel on adhère. Donc, voyez, c'est très délicat à bien préciser ce que représente l'adhésion du jugement à l'égard l'exister de Dieu, donc à l'égard de Dieu. Est-ce que la question qui pourrait se poser, je la reprends exprès d'une autre manière pour que vous compreniez bien, je vous poserai comme question, par exemple, à l'examen, parce que ça vous éveille. Non, à l'examen, posez la question, dites-moi si l'intelligence adhère à l'exister de Dieu. Est-ce qu'il y a un toucher de l'intelligence à l'égard de Dieu ? Je touche. Les mystiques parlent d'un toucher de Dieu. Saint Jean de la Croix. Goûtez et voyez comme Dieu est bon. C'est une expérience directe de Dieu. Directe. Ah. Est-ce que c'est direct ? L'expérience de Dieu, je peux le dire. C'est pas une expérience directe, ce serait la vision béatifique. Donc il y a toujours un intermédiaire. Il y a un métaxu. Dans l'ordre mystique, c'est la charité, c'est l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu m'aime que j'adhère à lui. Et vous voyez, pour l'Eucharistie, c'est cette conviction du croyant que Dieu se donne à travers les espèces de pain et de vin, les apparences du pain et du vin, qui me font dire que je suis en présence de Dieu qui se donne à moi. Si Dieu se donne à moi, il touche ce qu'il y a de plus vital en moi. De plus profond. Et à travers cet amour, et dans cet amour, j'atteins Dieu dans le silence, sans aucun concept, mais dans une adhésion parfaite d'amour. Dieu est présent, mystiquement, au plan philosophique. Ça, c'est au plan mystique. Donc, au plan mystique, je peux dire, il y a une expérience de la bonté de Dieu. J'ai une expérience du cœur blessé du Christ. Et l'Eucharistie est le métaxu de cette expérience. Puisque l'Eucharistie m'est donnée directement. Mais, faisons attention, l'Eucharistie, c'est pas en regardant l'hostie que vous regardez Dieu. Vous ne touchez Dieu que dans la foi. Tout ce qu'il faut dire, hein, dans les personnes, les cinq personnes pieuses, disent « Ah, j'aime te communier dans la main parce que je touche Dieu. » Dis « Ma pauvre dame, c'est pas vrai. » Alors elle est affolée, Elle dit « Ah, vous ne croyez pas à la présence réelle ?»« Oui, j'y crois. » Seule la foi touche Dieu. Sola fide. Seule la foi touche Dieu. Vous touchez les apparences. Si vous restez fixé aux apparences, vous ne touchez pas Dieu. Vous voyez, vous restez dans le conditionnement dans lequel Dieu se donne. Les sacrements, c'est un conditionnement merveilleux de la pédagogie divine. La pédagogie regarde toujours le conditionnement, sans oublier la finalité. La finalité, c'est le don de Dieu. Le conditionnement, c'est à travers les apparences de pain et de vin. C'est le conditionnement. Seule la foi touche le cœur du Christ. Seule la foi touche le corps du Christ. Et vous ne le touchez pas avec vos mains, avec votre sensibilité. C'est très bien d'être très sensible au conditionnement. Et c'est aussi très dangereux. Parce que vous risquez de rester tout le temps dans le conditionnement. Et c'est pour ça que quand l'Esprit Saint purifie, nous fait dépasser le conditionnement. Le conditionnement, c'est la présence et l'absence. Et la foi, c'est la vie éternelle. Il faut être très net là-dessus. Espèce de lucidité très grande pour ne pas perdre de temps. Parce que il ne faut pas supprimer le conditionnement, c'est bien évident. Et les sacrements, surtout pas les supprimer, il faut les aimer comme une pédagogie merveilleuse de Dieu. Au sommet de cette pédagogie, c'est l'Eucharistie. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de méthode dans cette pédagogie, puisque c'est le Christ qui est la voie. Et dans l'Eucharistie, le Christ est voie, de façon étonnante, mais il est aussi vérité et vie. Je ne m'arrête pas à la voie. Je ne m'arrête pas au mode sacramentel. Le mode sacramentel, je le reçois, je m'en sers, mais j'adhère au mystère. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Il y a un conditionnement de la parole de Dieu. Et ça, le conditionnement, l'exégèse l'étudie. Mais le croyant dépasse et adhère au mystère. La contemplation philosophique de Dieu, donc humaine, disons la contemplation humaine de Dieu, je n'atteins pas Dieu directement. Je ne vois pas Dieu dans sa vision béatitude telle qu'il est. Je le vois à travers ses effets. Et l'effet le plus proche, c'est moi-même. C'est sûr. Et dans toute voie d'accès vis-à-vis de Dieu, pour que cette voie d'accès soit vécue comme une découverte de Dieu, c'est mon « je suis » qui est présent. J'existe. Et j'existe de telle manière, puisque j'existe en pensant, en aimant la vérité, en la recherchant, et en pensant que ce qu'il y a de plus intime en moi, dans ma pensée, dans mon amour, et tout entier dépendant de Dieu. Et me relie à Dieu devient comme un tremplin, un métaxu, pour être présent à celui qui est présent à celui qui est plus présent que je ne suis présent à lui. Donc, vous voyez, mon intelligence adhère pleinement à cette réalité intérieure d'un esprit qui cherche Dieu, qui aime la vérité et qui veut la découvrir de la manière la plus forte qui soit. Et cet esprit qui découvre Dieu, qui affirme qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier, c'est mon intelligence qui s'ouvre à ce mystère et qui adhère autant qu'elle le peut, mais dans la totale obscurité, puisque je n'ai pas l'évidence de cet être qui est un Dieu caché. C'est mon intelligence qui, se servant de ce métaxu, métaphysique, mon existé limité, mon amour limité, ma recherche de vérité limitée quant à son exercice et illimité quant à ce qui la détermine. Et à ce moment-là, dans cette adhésion intellectuelle, mais affective et mente, cette addition de sagesse, je contemple Dieu. Donc vous voyez bien toute la différence entre la contemplation métaphysique, philosophique, humaine, et la contemplation divine. La différence doit se prendre du côté du métaxu, puisque c'est le même Dieu que je contemple, c'est la même présence de Dieu, mais selon deux modalités totalement différentes. D'un côté, c'est Dieu qui se donne dans l'Eucharistie. De l'autre côté, c'est Dieu qui me crée. Et qui me crée dans l'amour. Et qui me crée. C'est le Dieu qui me communique l'existé. Qui me communique la capacité de connaître et d'aimer. Tandis que dans la contemplation mystique, c'est Dieu qui se donne actuellement à travers l'Eucharistie et qui se donne à moi pour demeurer en moi et pour m'attirer à lui. Ceci, c'est très important pour nous. Et au plan critique, vous voyez, c'est de la critique. Et j'ai parfaitement le droit de mettre entre parenthèses, nota bene, différence entre la contemplation philosophique, humaine, et la contemplation mystique. Je sais que la contemplation mystique, je ne peux en parler que si j'en ai une certaine expérience. Comme du reste, la contemplation métaphysique, je ne peux en parler que si, de fait, il y a eu ce super vécu qui n'est plus un vécu. Parce que je ne peux pas dire que la contemplation est un vécu. Parce que dès que vous vous regardez contempler, vous ne contemplez plus. C'est là la pauvreté de la contemplation. Tandis que dès que vous vous regardez manger, vous pouvez continuer de manger. Faut faire un petit peu attention pour ne pas manger votre langue, mais autrement. Mais c'est comme celui qui veut descendre l'escalier, qui se regarde descendre l'escalier, il suffit qu'il se regarde descendre l'escalier pour dégringoler. Mais là, on peut le faire, tandis que je ne peux pas contempler en me regardant. Je suis lucide dans ma contemplation, mais je ne me regarde pas contempler. pour ça que la psychologie, si elle devient l'absolu, où je me regarde, me représente, faisant telle ou telle activité, risque toujours d'arrêter cette activité. Donc de tuer le philosophe en moi. C'est le piège. Il ne faut pas nier la psychologie, mais il faut savoir que la tendance du psychologisme risque toujours de tuer le contemplatif, le philosophe. Il ne faut pas qu'à cause de ça, le philosophe rejette la psychologie. Vous voyez, parce qu'alors il se mettrait dans une position dialectique. Il faut qu'il l'accepte en disant attention, hein. Vous savez, comme un chien qui vous caresse de trop. Allez, puis bon. Et on dit arrête, que mon intelligence puisse pénétrer là où elle seule peut pénétrer, parfaitement lucide, mais en acceptant la pauvreté du contemplatif. Le contemplatif ne se regarde pas contempler. C'est comme l'amoureux ne se regarde pas amoureux. L'amoureux qui se regarde amoureux n'est plus amoureux. Et c'est le danger, vous voyez. Parce que quand vous vous regardez amoureux, vous vous regardez et vous n'êtes plus amoureux. Vous êtes celui qui regarde l'amoureux qui est en vous. Mais en vous regardant, vous arrêtez l'amour. C'est très très difficile de bien comprendre ce que représente l'absolu de l'amour, l'absolu de la contemplation. On touche les pointes ultimes de la vie là. Alors, continuons notre aspect critique. Et je voulais insister davantage là parce qu'on ne le fait jamais. Et c'est important, au point de vue critique, de bien voir ça, de bien saisir ce point de vue-là. Alors, si vous avez des questions, fatalement, vous en avez, hein, essayez les écrire. Bredouillez. Parce que c'est pas commode. Alors, on a vu les deux extrêmes, comme jugement. Maintenant, je regarde tout de suite un autre aspect. Au point de vue du chemin, vous savez, ceci est la base. Et puis, il est nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a entre deux? Pour pouvoir dire, il est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut? Ah, la saisie des principes. Avec des actions, c'est là où c'est important de bien voir la saisie propre. Alors, la saisie propre, c'est quoi? Ce qui est en acte est antérieur à ce qui est en puissance. Ou inverser, ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. J'aime mieux dire, au point de vue critique, ce qui est en acte est antérieur à ce qui est en puissance. Quand je dis est antérieur, c'est-à-dire est complètement indépendant de ce qui est en puissance. Ce qui est en acte est parfaitement lui-même. Ça, c'est l'affirmation d'un principe. Du principe propre de l'être en acte. La saisie de l'être en acte me dit tout de suite ça. Ce qui est en acte est premier. Alors, quel est ce genre de principe? C'est un jugement, hein, c'est un jugement, c'est bien évident. C'est un jugement qui regarde les principes propres. Donc cette saisie est un jugement qui regarde les principes propres de ce qui est. Je peux mettre l'autre principe pour que vous voyez tout de suite mieux. Ce qui est premier dans l'ordre des déterminations et substances. Ce qui est premier dans l'ordre des déterminations et substances, c'est un autre principe. Les deux principes propres de la métaphysique que je dois passer au crible de la critique. Selon l'ordre de la forme, la substance.